Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Très heureux de vous retrouver pour ce temps de discussion et d'échange en compagnie de Régis Geoffrey. Mon cher Régis, bienvenue à vous.
Merci.
Très heureux de vous retrouver à l'occasion de la publication de ce livre qui s'intitule « Papa » aux éditions du Seuil. On va bien sûr entrer en détail dans ce livre avec vous. Peut-être un tout petit mot de présentation, même si évidemment les lecteurs vous connaissent. Vous êtes auteur d'une œuvre importante, considérable, d'abord publiée chez De Noël, puis chez Vertical. On se souvient de livres notamment comme Clémence Picot, comme Univers, Asile de fous, qui a eu le prix Fémina, je crois, en 2005. On parlera peut-être aussi un petit peu pendant cette conversation des deux volumes des micro-fictions que vous aviez donnés, l'une en 2007, et puis j'ai là ce gros pavé des micro-fictions 2018 qui est toujours aussi savoureux. Et puis, vous aviez publié ensuite des livres, disons, liés à du réel. On est dans un festival qui s'interroge autour de cette question du rapport au réel, et notamment le livre qui s'intitulait Sévère, Clostria, La balade de Rikers Island, qui étaient des livres qui s'inscrivaient comme ça sur des faits réels, sur des faits divers, sur des personnes ayant existé, comme on dit au cinéma. Et puis donc là, vous publiez ce livre-là, Papa, qui est un livre qui part d'un déclic ou d'une chose qui fait effraction à proprement parler dans votre vie d'écrivain, qui est la découverte d'un documentaire à la télévision dans lequel vous apercevez, un documentaire sur la France de Vichy, dans lequel vous apercevez celui qui est votre père, Alfred Geoffrey, entre deux gestapistes, entre deux personnes de la Gestapo, en bas d'un immeuble qui est l'immeuble dans lequel vous avez vécu enfant et dans lequel ont vécu vos parents, à Marseille. Et à partir de ce point de départ, qui est une sorte de sidération, mais vous allez le dire sans doute bien sûr mieux que moi, vous essayez de mettre en place une enquête, et ce qui est très singulier là-dedans, c'est que finalement ce film-là n'a aucun écho, n'a aucune existence, il y a une sorte de mystère autour de ce fait-là, qui fait que vous allez entreprendre une enquête, mais une enquête avec très peu de matériaux en réalité. Donc vous allez revenir finalement, essayer de dresser le portrait de ce père, Alfred, un père qui est atteint de surdité, qui a un rapport compliqué au monde, notamment à cause d'une utilisation de médicaments qui l'anesthésie, un père absent d'une certaine manière, que vous essayez de réinvestir en racontant son histoire avec votre mère, et un certain nombre de sujets qui vont vous amener finalement à passer du nom de Alfred à celui de papa. C'est très vite dit, évidemment, tout cela, on va creuser tout cela au fil du livre, mais peut-être commencer par cela. Je parle d'effraction dans la vie d'un écrivain. Vous n'aviez pas été jusque-là très coutumier de l'écriture autobiographique.
C'est
le moins qu'on puisse dire. Donc on a vraiment le sentiment que ce film, que ce documentaire, il vient percuter quelque chose chez vous et qu'il vous amène à faire un livre auquel vous ne vous attendiez sans doute pas. Peut-être peut-on commencer par cela.
Oui, donc ça s'est passé, comme je le dis dans le livre, donc j'étais chez moi, la télé tournée puisque je la regardais pas vraiment, puis j'ai vu apparaître la maison de mon enfance, donc je suis revenu en arrière, j'ai filmé, j'ai pris des photos, donc j'ai agrandi, je me suis dit c'est bien la maison, et puis après je me suis aperçu que c'était mon père, voilà. Donc personne ne savait qu'il avait eu maille à partir avec la Gestapo, ni qu'il avait eu d'activité de résistance, voilà. Donc j'ai fait des recherches. Alors Yvan Jablonka, l'écrivain et historien, m'a dit il faut contacter les archives régionales, ce que j'ai fait. Alors c'est très bien fait, ils m'ont répondu tout de suite que les archives de la Gestapo, il n'y en avait pas, puisque mondialement elles ont à peu près toutes été détruites, parce que les nazis ont demandé que reviennent les archives à partir de mars 1944 à Berlin. Elles ont été centralisées et les bombardements américains ont fait qu'elles ont à peu près toutes brûlées. Voilà, donc pas d'archives. Au niveau de la police, il n'y avait pas trace non plus. Alors là, ça donne l'idée qu'il n'a pas été gardé longtemps, parce que si on l'avait gardé longtemps, on l'aurait donné à la police française, et là, il y aurait eu des traces, des archives. Et à part ça, rien. À part que donc je découvre que la Gestapo marseillaise, j'allais dire, était pire que les autres, elles étaient toutes pires, quoi. Mais la Gestapo de Marseille était en fait, était organisé autour d'une bande de gens de la pègre, puisque c'était Sabiani, qui était celui qui dirigeait un peu la pègre marseillaise à cette époque. Il y avait à peu près 150 personnes, selon les sources, 200 personnes qui étaient engagées. D'ailleurs, quand on voit la vidéo de mon père, on voit que c'est des petits jeunes. Ils ont l'air d'avoir 20 ans, pas plus. Ils se la jouent complètement. Ils ont des vêtements très bien taillés, ce qui était le cas souvent des Français, parce que des collaborateurs français, parce qu'ils payaient pas. Ils allaient chez les tailleurs, ils payaient pas. Alors les Allemands avaient ordre de payer, mais vu que le mark était très supérieur aux Français, ça leur coûtait pas cher non plus. Mais enfin, ça c'est un détail. Et c'était vraiment salaud les 120 journées de Sodome, 225 rue Paradis, siège de la Gestapo. C'est-à-dire qu'il y avait des tortures et il y avait de la prostitution. C'est-à-dire qu'il y avait des prostitutions qui venaient pour les bourreaux, si j'ose dire. Voilà. Donc c'est toute cette espèce d'épouvante. Donc je pars sur cette histoire et en fait l'histoire s'avère très vite insoluble. Je me retrouve devant un mur et jusqu'à présent je suis devant un mur et un mur d'autant plus épais, je dirais, c'est que non seulement personne n'a souvenir de cette histoire, mais personne n'a souvenir d'un tournage dans la rue. Or, c'est un tournage très élaboré avec champ contre champ. Ça veut dire que la scène a été refaite plusieurs fois. Il y a des caméras qui sont des caméras sur pied. Il y a un camion, il y a un certain nombre de gens. C'est un tournage qui n'a pas pu durer moins d'une demi-journée. Et dans cette petite rue minuscule de Marseille où, de mémoire d'homme, personne n'a jamais tourné, tout le monde se tait. Alors, non seulement les gens de la famille, puisque la maison était habitée principalement par la famille, mais le reste de la rue qui est peuplé de gens qui étaient très proches de la famille ou qui en faisaient partie. Et là, c'est un événement qui n'entre pas du tout dans la saga familiale ou la saga de la rue. Ça, c'est le plus grand mystère pour moi. Comment on a pu faire taire sous ces gens, si vous pensez en plus qu'il y avait des domestiques, etc. Comment ça a été possible? Ça, je n'en ai aucune idée. C'est le mystère le plus épais et le plus entier de l'histoire. Voilà, parce que quand on voit mon père arrêté, derrière les volets habitait ma petite cousine, qui aujourd'hui a 80 et quelques, et qui avait 5 ans à l'époque. À 5 ans, on entend parler de choses, etc. Voilà. Donc alors après, je suis tombé sur mon père. Moi, je n'avais jamais parlé. Non seulement dans un livre, mais je n'en avais jamais parlé à personne. Je n'en avais pas parlé à mes enfants, d'ailleurs. Bizarrement, je me suis aperçu après que ma mère n'en a jamais parlé à mes enfants non plus. N'a jamais parlé, lui, à la mère de mes enfants. Donc, c'était un homme qui était complètement escamoté. Et donc, je me suis retrouvé à essayer de retrouver quel homme était-il avec les débris que j'avais. Alors, j'avais les débris de cette arrestation, donc c'était une chose. Après, je savais qu'à l'époque, je savais où il travaillait, donc c'était autre chose. Je savais qu'à l'époque, bon, il entendait encore et qu'il jouait du piano, qu'il s'intéressait à la poésie, qu'il écrivait des vers, qu'il était un grand marcheur. J'avais même des documents, qu'il était un nageur, j'avais des documents. Voilà, j'avais quelques éléments. Et puis, il y avait le reste de la famille, mais il ne connaissait pas encore ma mère. Et voilà.
Moi, ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, lorsque vous voyez ce document il y a quelques années, vous avez le sentiment que vous allez peut-être pouvoir réécrire une histoire qui vous avait échappé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a un regard porté sur le père. Vous écrivez à un moment donné que vous avez eu très peu de pères, d'une certaine manière. Et il y a une forme de regard porté sur sa vie qui serait une vie d'insignifiance, pour le dire de manière un peu cruelle et abrupte, et dans laquelle vous vous dites que vous allez pouvoir investir quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme d'héroïsme, d'aventure. C'est ça aussi qui est la matrice de l'écriture, finalement, au moment du livre et de la découverte de ce documentaire.
Bah, c'est-à-dire qu'après, l'écriture m'a échappé. N'exagérons rien. Mais comme je n'ai rien trouvé, petit à petit, en réfléchissant, en parlant de ce père, j'ai été obligé, bien, de parler de ce père pour un peu essayer de situer les choses. Et d'ailleurs, le livre est écrit en temps réel, j'allais dire, parce que petit à petit, je fais une recherche finalement qui aboutit à rien. Et donc, le résultat, c'est mon père, dont j'aurais jamais pensé que je parlerais et je n'aurais jamais pensé oser en parler, en fait. C'était un homme qui était, donc moi, quand je l'ai connu, qui était sourd complètement, qui était bipolaire et qui est sous allopéridol. L'allopéridol, c'est un neuroleptique qui était notamment donné en Union soviétique aux Sakharov et consorts, à tous les dissidents, quand on les enfermait dans des asiles psychiatriques. Et l'allopéridol a la faculté, si vous voulez, d'empêcher de penser. Un peu, c'est-à-dire que ça, c'est un antidélire, mais qui était utilisé dans son cas, parce que quand vous baissez les phases d'exaltation, vous baissez les phases de dépression, et vous arrivez à stabiliser les gens. Et là, il était stabilisé à minima de lui-même, je dirais. Donc, il existait très peu, enfin, c'est une façon de parler, mais en tout cas, par rapport à moi, il a été très peu père, c'est-à-dire qu'il a presque pas été père, c'est-à-dire qu'il était là tout le temps, mais en même temps, il était replié sur lui-même, et de souvenirs de père à fils ou de fils à père, je n'en ai guère. Je les donne dans le livre, je tombe sur 5, 6. Très honnêtement, en cherchant, j'en trouverai peut-être 15. Mais c'est des très, très vagues souvenirs. Je veux dire très vagues au sens où il n'y a pas grand-chose dedans, quoi. J'ai pas de souvenir d'avoir fait quelque chose avec lui. J'ai pas de souvenir d'avoir eu une discussion avec lui. Jamais, quoi. Donc, je me suis aperçu que j'avais eu très peu de pères, en fait. J'en avais eu une larme. Et donc, ça a été la course de ce livre. Et puis, quand vous tombez là-dessus et que vous vous apercevez que l'enfant que vous avez été, que vous n'êtes plus, a pas eu beaucoup de chance, quand même, sur cet aspect-là, vous êtes en empathie avec cet enfant-là. Plus qu'avec vous, parce qu'avec vous, le temps a passé, donc on va dire que c'est pas à vivre, c'est pas vrai, mais c'est surtout qu'on rencontre cet enfant-là. Moi, c'est ce que j'ai... Voilà, et donc, je me suis plongé dans cette histoire, et j'ai essayé de... À un moment, puisque j'avais pas de père, à un moment, vers la fin, j'ai essayé de m'en inventer un, avec celui que j'avais. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer ? Voilà.
Oui, parce qu'on pourrait prendre le mot de héros au double sens, c'est-à-dire qu'en voyant la présence de votre père sur ce documentaire, il y a l'idée qu'il a pu avoir une existence exceptionnelle ou un moment de son existence exceptionnelle qu'il aurait caché et qui donc pourrait en faire un héros. Et puis, il y a l'idée malgré tout qu'en construisant ce livre, vous en faites un héros ou un personnage de roman au moins. Il y a ces deux dimensions-là dans la construction du livre et dans l'écriture. L'écriture est une manière de lui rendre une forme de je ne sais pas si on doit dire de noblesse, mais en tout cas d'épaisseur, d'importance finalement. C'est dans cette dynamique-là aussi que ça se joue.
Ah bah oui, puis alors ce qui m'a bouleversé, ce qui me bouleverse depuis que le livre est sorti, c'est que je vois le nom Alfred Geoffrey partout. Enfin partout, dans tous les articles, vous l'avez cité, dit Alfred Geoffrey. Et ça, c'est assez extraordinaire, cet homme qu'on avait aussi... qui a aussi peu existé et qui apparaît dans le... dont les gens parlent, moi ça me bouleverse beaucoup. Alfred Geoffrey, je sais pas, bon, voilà, parce que c'était quelqu'un. Oui, c'était ces vies-là qui sont un peu passées à l'as. Comment dire, il avait peu. Vous savez, les gens, on se lasse beaucoup des sourds déjà parce qu'ils comprennent rien, donc ça agace beaucoup. Et les gens qui sont en plus sous ce genre de thérapeutique, en plus il était clos sur lui-même, donc il n'avait pas forcément des choses qui intéressaient les gens à raconter. Donc dans ces cas-là, les gens n'écoutent plus et la personne se replie de toute façon encore plus. Voilà, donc moi j'ai eu très peu de pères. Parce que lui, par rapport au monde extérieur, il existait très très peu. Il y avait une sorte de routine d'existence. Il n'était pas du tout débile ni quoi que ce soit, c'est pas la question. Mais il n'y avait rien pour séduire les gens suffisamment pour qu'ils aient envie d'avoir commerce avec lui, de parler avec lui, tout ça. Les gens qu'il faisait, c'était par gentillesse, on va dire. Mais autrement, personne n'allait vers lui parce qu'on était intéressé par lui. Ça, c'est assez frappant. C'est des choses qui arrivent parfois aux gens très âgés parce que justement, ils n'entendent plus rien, ils ont perdu un peu la tête, donc ça ennuie les gens. Lui, il était jeune, il n'avait pas perdu la tête. Mais voilà, il existait très peu et pour les gens, il était un peu quantité négligeable, pas par méchanceté, mais de fait. Voilà. Et de fait, et quand il est mort, de fait, il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit sur lui. Ça, c'était quand même très frappant. Et après, très peu de gens en ont parlé. Très, très peu. Alors moi, j'en ai pas parlé à mes enfants, je sais pourquoi. Parce que j'avais eu très peu de relations avec lui, j'avais très peu de choses à dire, j'avais pas de choses contre lui à dire non plus, donc franchement, je sais très bien pourquoi. Je m'aperçois que ma mère n'a jamais dit ton grand-père. Et ça, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé. Ça m'a assez sidéré, parce que par exemple, mon fils joue du piano, elle aurait pu lui dire « Ah, bah, ton grand-père aussi jouait du piano, etc. » Jamais elle a dit « Ton grand-père à mon fils ou à ma fille. » Et ça, je suis extrêmement surpris. Comme si c'était un peu, comme on dit chez les Gitans, que quand quelqu'un meurt, on brûle sa roulotte et on n'en parle plus. Là, on était catholiques, on n'était pas gitans. Je ne sais pas si les gitans sont catholiques d'ailleurs. Mais de fait, on dirait qu'on a brûlé sa... Tiens, c'est beau comme truc, j'aurais dû le mettre. On a brûlé
sa roulotte.
Surtout que ce n'est pas de moi, c'est les gitans qui brûlent la roulotte. Et c'est, voilà, exactement. Tiens, c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
Ça aurait pu être le titre du livre, Brûler la roulotte.
Exactement.
Je vais juste lire un tout petit extrait. Vous écrivez ceci, page 79. À quoi servirait d'évoquer son père décédé une trentaine d'années plus tôt si c'était avec le projet cruel et prétentieux de vouloir le faire apparaître tel qu'il fut ? Je veux l'apprivoiser, le poncer, passer l'estompe, l'astiquer comme une paire de vieux souliers pêchés dans un grenier. Souvent, les écrivains ont l'obsession de la justesse ou du portrait exact, oui, juste d'une certaine manière. Vous, vous assumez le fait d'en faire un portrait où vous astiquez finalement sa vie, où vous faites reluire finalement quelque chose qui ne brillait pas. C'est une entreprise quand même déjà de mise en fiction particulière par rapport au fait d'écrire un livre sur un personnage.
Non, là, c'est pas dans ce sens-là. C'est que j'ai parlé d'aspects dont on parlait pas de lui. Par exemple, ce côté qui était joué du piano, il n'y a jamais été question qu'il soit un virtuose. Enfin, bon, tout le monde, moi, je ne sais pas en jouer, par exemple. Lui, il jouait du piano sans l'avoir appris. Bon, il y a d'autres gens qui ont ce don-là. Il écrivait des vers. Bon, tout le monde n'est pas capable de le faire. Il avait fait un certain nombre de choses dans sa vie dont on ne parlait pas. Donc, j'ai essayé de retrouver ces choses-là, de retrouver tout ce monde qui a existé avant que je sois là et même avant que ma mère le connaisse, puisqu'elle l'a connu en 52 ou 53, donc des années après. Donc, toute cette vie qu'il a eue, qui fait une existence, parce que finalement, ça fait une existence. Mais pourquoi, lui, on a escamoté la mémoire de ce qu'il était? Pourquoi? C'est très curieux. C'était un homme assez athlétique, assez sportif, bien que le mot, je ne sais pas s'il était très à la mode, mais enfin assez sportif, hein, qui faisait du ski, qui a été chasseur alpin, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit. Donc pour être chasseur alpin, il doit falloir quand même très bien skier, j'imagine. Donc vous voyez, j'y pense à peine. Je sais qu'il était chasseur alpin, mais voilà, ça n'a jamais... Toutes ces qualités n'ont jamais, tiens, c'est en vous en parlant, n'ont jamais été mises en valeur. Voilà, comme si la surdité et l'allopéridole avaient tout noyé. Donc c'est ça que j'ai mis en avant.
Je comprends. D'ailleurs, lorsque vous dites que vous essayez de revenir sur l'histoire, la rencontre avec Madeleine, leur mariage, leur voyage de noces, votre naissance, on a l'impression que c'est une sorte de reconstitution, mais une reconstitution à trous, c'est-à-dire que il manque des informations. Comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à ça? C'est une forme d'enquête par rapport à ce qui s'est produit et une forme de réécriture, là aussi, de ce que vous imaginez, de la manière dont vous l'avez ressenti, dont vous le ressentez aujourd'hui. Comment vous articulez tous ces éléments-là?
D'une certaine façon, alors c'est un peu comme un historien qui a quelques faits et il essaie de reconstituer le tout. Ce sont des hypothèses, c'est presque scientifique. On a quelques éléments, puis on fait des suppositions. Alors quand c'est de la physique, après on fait des hypothèses qu'on essaie de vérifier dans le réel. En mathématiques, c'est une démonstration. Et puis en mathématiques, même, il y a des fois où c'est pas une démonstration, c'est qu'on démontre statistiquement. C'est-à-dire qu'on sait pas le démontrer, mais comme sur... Enfin, je suis pas mathématicien, mais bon, bref. Et là, c'est à partir, oui, des éléments que j'ai. Par exemple, le voyage de noces de mes parents, j'essaie de le reconstituer. Évidemment, je n'étais pas là, puisque je suis né après, ça aurait pu être le contraire, mais à l'époque, ils étaient assez catholiques, classiques, donc je suis né après le voyage de noces. Et j'avais vraiment des éléments. Je savais que ça s'était passé à Florence, je savais que le dernier jour, ils étaient allés à Rome visiter le Vatican, je savais chez qui ils étaient allés, je savais ce qu'ils faisaient, je savais, etc., etc. Puis il y avait quelques photos. Donc, à partir de là, j'avais quelques éléments. Et donc, pour le faire ressusciter, ce voyage de noces, pour le faire apparaître, je ne sais pas comment on peut dire les choses, l'imaginaire était là, mais l'imaginaire, sans imaginaire, non seulement vous n'avez aucune science possible, mais il n'y a pas grand-chose qui est possible si vous n'imaginez pas. Je crois que vous ne pouvez même pas enseigner si vous n'imaginez pas. Un enseignant qui ne pourrait pas imaginer ne pourrait pas transmettre. Parce que l'imaginaire, c'est une réflexion. Donc je crois que même en lisant, on imagine parce qu'on suscite ce qui est dans le livre et qui ne vous est pas donné. Un livre, c'est comme une partition. Si vous lisez une partition musicale, ce que je serais bien incapable de faire, mais par exemple, les compositeurs savent le faire, ils entendent la musique en lisant la partition. La musique se fait à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas, il n'y a pas de piano, il n'y a pas d'orchestre.
Alors il y a une chose aussi qu'il faut évoquer, c'est qu'il y a dans le livre, je ne sais pas comment on doit dire, une sorte de voix supérieure qui vient à un moment donné dialoguer avec l'écrivain que vous êtes. Alors je ne sais pas comment il faut l'envisager, mais je prends par exemple cette chose-là. Vous êtes en train de parler, je dirais, de la sexualité de vos parents. Et là, il y a un dialogue qui dit ceci: la sexualité de ses parents est tabou. Comme vous le voyez, la réponse est celle-ci. Pourtant, si on ne peut plus rire de tout, je rends ma plume et vous en ferez l'usage que vous voudrez. C'est-à-dire que vous êtes en dialogue avec ce qui serait une sorte de contrôle, de pudeur, de ce qu'on peut dire ou pas dire, une sorte de, je sais pas, de surmoi qui viendrait vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans ce genre de cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la place que tient cette dimension-là dans le livre ?
Un peu dans tous mes livres, il y a un peu des choses comme ça. Oui, là ça m'a amusé parce que justement, ce côté malsain de la sexualité des parents, les années étant passées, il n'y a plus rien, quoi. C'est ni malsain ni sain, quoi. C'est quelque chose d'extérieur. La sexualité de mes parents qui en 1952 ou 53, franchement, je trouvais vraiment rien de... J'aurais eu 15 ans et j'en aurais parlé, peut-être que ça... Mais là, franchement, il n'y a plus rien de... Enfin, pour moi, il n'y avait plus rien de cet ordre. Donc ça m'a assez amusé parce qu'en même temps, c'est un livre un peu tragique d'une certaine façon. Et là, ça m'a un peu, enfin, moi, ça me met toujours en bonne humeur, quoi, parce que autant l'écriture érotique, il n'y a rien d'aussi ennuyeux, mais voilà, imaginez la nuit de noces de ses parents, étant donné que mes parents étaient dans le train, parce que le mariage, après le mariage, à 5 heures l'après-midi ou 7 heures, j'en sais rien, ils ont pris le train de nuit pour Florence. Donc voilà, donc comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, j'imagine qu'ils n'avaient pas un wagon-lit, donc ils étaient dans des couchettes, donc la nuit de noces a dû être reportée. Voilà, donc voilà, c'est des choses qui sont d'autant plus amusantes que d'ailleurs la sexualité de ses parents, on l'imagine toujours lamentable. On n'imagine pas du tout que c'était quelque chose d'épanoui ou quoi que ce soit. On a toujours l'impression que c'était pitoyable. Voilà. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas si je l'ai décrite comme étant pitoyable, mais voilà.
En même temps, c'est vrai que vous avez quand même un ton qui reste le ton de Régis Jauffray. C'est-à-dire que j'ai dit au début que c'était un livre aux matériaux autobiographiques, avec une forme d'émotion qu'on n'a peut-être pas beaucoup lu chez vous, ou en tout cas un rapport personnel à son propre parcours. Et pour autant, on reste dans des livres de Régis Jauffray, avec beaucoup de dureté, une forme de causticité à certains égards. J'aurais pu lire, par exemple, le passage de la mort du père, le regard sur le cercueil de mafieux, quelque chose qui se joue aussi avec une forme. Alors, je sais pas si c'est causticité.
Le cercueil de mafieux, c'était dans le magasin de cercueil. Hein,
oui.
Il n'avait pas un cercueil de
mafieux.
Mais
la mort du père, par exemple, comme d'autres événements, est décrit avec une forme de dureté. Je sais pas si causticité est le bon terme, mais
c'est, je la décris comme elle s'est passée. Voilà, avec d'une certaine façon toute l'étrangeté, parce qu'il n'était pas malade, il meurt, son frère médecin l'examine une heure avant, lui donne un antidouleur, et puis une heure après, il tombe mort. C'est factuel et il n'a pas eu d'agonie, donc il n'y a pas eu de... Encore là, il a été, on dirait que la mort l'a escamoté aussi. Parce qu'on ne s'est pas appesanti sur lui. Il est mort, il n'a pas eu d'agonie, etc. Et de fait, je sais pourquoi. Moi, j'avais très peu de rapport avec lui. Alors, j'ai eu, dans un premier temps, une sorte d'indifférence. Après, je suis tombé dans une dépression qui a duré longtemps, mais ça, je crois que je n'en parle pas. Mais autour de lui, que ce soit... tous les gens, quand ils sont passés à la maison de mes parents, il y avait des discussions très réduites sur lui. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai pas entendu plus d'une phrase. Après, les gens parlaient d'autre chose. Il y a un de ses frères qui a dit il est mort comme il a vécu, discrètement. Bon, ok, ce genre de choses. Et ça s'arrêtait vraiment là. Il y en a un qui a dit il aurait pu être mon fils parce que j'ai 19 ans de plus que lui. Voilà, ce genre de choses. Je ne me souviens pas quelqu'un qui racontait un souvenir avec lui. Rien. De fait, rien. C'est pas. Il n'y avait qu'une de ses collègues de bureau qui était émue. Mais après, je n'ai pas vu d'émotion, de grande émotion. Et je n'ai pas entendu. Quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on aurait dit que c'était des gens qui ne l'avaient pas connu. Voilà. Parce que c'était tout au plus une phrase. Celle dont je vous parle, c'est tout. Il n'y avait pas... Voilà. C'était la réalité telle qu'elle s'est passée. Alors après, il y avait... l'église était pleine de monde, etc. C'était pas le problème. Voilà. Les choses se sont passées... normalement, dirais-je, mais c'est un fait. C'est un fait. Alors peut-être que les gens étaient dans la retenue, mais je ne crois pas.
C'est aussi un livre, c'est un livre sur le père et sur l'histoire familiale, presque un livre généalogique d'une certaine manière, mais c'est aussi un livre, me semble-t-il, beaucoup sur la mémoire et la manière dont un écrivain se situe par rapport à cette question de la mémoire. Il y a un passage notamment dans le livre où vous décrivez la mémoire comme une maison, les pièces, la salle de bain, le grenier, etc. Il y a une idée du souvenir, vous avez évoqué l'absence de souvenir qui induit un rapport à l'invention des souvenirs d'une certaine manière, et aussi une réflexion profonde sur la mémoire. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un livre qui, en tant qu'écrivain, vous a amené à interroger cette dimension-là, ce rapport à la mémoire existante, à l'invention des souvenirs, aux bribes, aux traces? Est-ce que ça vous paraît être une dimension importante du livre?
Mais ça a été fatalement, parce que, étant donné que j'avais très peu de souvenirs, c'était d'autant plus précieux, quoi. C'était un peu des pépites parce que je n'en avais pas beaucoup. Donc il y a de fait cette réflexion parce que j'ai pas grand chose sous la main, quoi. J'ai pas une surabondance de souvenirs avec mon père. C'est le moins que je puisse dire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était là tout le temps. C'est pas quelqu'un qui partait. Il était là tout le temps, d'autant plus qu'il travaillait à mi-temps. Donc il était là beaucoup plus qu'un père. Ordinaire, j'allais dire. Donc oui, il y a chose sur la mémoire, parce qu'en même temps, vous essayez de trouver quelques souvenirs et vous n'en trouvez pas beaucoup. Alors vous soupçonnez toujours que vous en avez oublié. Et de fait, j'ai dû en oublier quelques-uns. Mais normalement, on a une surabondance de souvenirs sur son père. Bons, mauvais, des souvenirs qui peuvent être qualifiés de banals ou je ne sais quoi, mais une quantité. Et là, je me retrouve, j'ai presque rien, quoi. Voilà, donc voilà la chose, quoi, sur la mémoire. Si bien que on est tenté presque de s'inventer un souvenir, et parce qu'on n'en a pas d'autre. Vous savez, c'est un peu comme un petit enfant qui n'a pas de jouet, il va l'imaginer. Il va imaginer le jouet qu'il n'a pas. Et donc, voilà. Parce que moi, je n'avais pas le père que j'aurais voulu avoir parce que les autres, ils avaient un autre père que moi. Ce n'était pas plus que ça. Mais ce n'était pas dit. Ce n'était pas pensé. Je n'aurais pas j'aurais pas eu la liberté intérieure pour le penser. Mais de fait, moi, j'aurais aimé avoir un père comme les autres, qui étaient des pères ordinaires, qui avaient rien d'extraordinaire, mais qui étaient comme les autres. Voilà. Et tandis que, bon, moi, j'avais un père qui était pas comme les autres et pas dans le sens positif du terme. Parce que la société est très cruelle pour ceux qui ont... qui sont tombés en route, qui sont tombés du vélo, je sais pas comment dire. La société, la voiture balai de la société est assez cruelle. Donc moi, je me retrouvais avec un père, qui était un embarras, parce qu'il était sourd, parce qu'il était bipolaire, parce qu'il n'était pas avocat, parce qu'il n'était pas coureur cycliste pour reprendre les posés du vélo, etc. Et que à la limite, après, socialement, il n'était pas. C'est même pas qu'il n'était rien, c'est qu'il n'était pas. Si bien que je suis jamais allé à son bureau, par exemple, je sais pas du tout ce qu'il a pu, ce qu'il pouvait faire, quelle activité il pouvait avoir. C'est assez mystérieux. Alors c'était chez un cousin à lui, donc c'était bon. Il avait dû travailler au départ. Après, on l'avait gardé. Mais je ne sais pas du tout. C'était dans un bureau. Il avait tout. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Je n'en ai pas la moindre idée. À l'époque, dans les bureaux, les gens ne travaillaient pas beaucoup aussi. Donc, ça pouvait se fondre un peu dans la masse des choses. Mais bon, ils travaillaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais donc je ne sais pas du tout. C'est par exemple toute une partie de sa vie que je ne sais pas. Parce qu'officiellement, il était industriel. Il n'était pas industriel, de fait. Et puis, c'est un métier très vague. Alors, on l'a mis industriel parce qu'à une époque, il était gérant. Donc, il était gérant, vous savez... À l'époque, ça existe aussi aujourd'hui. Mais enfin, à l'époque, vous mettiez qui vous vouliez gérant et il signait les bilans, il signait les papiers qu'il avait à signer. C'était pas pour ça qu'il avait un pouvoir. Voilà. C'était un mystère aussi.
En l'absence de mémoire, du coup, vous inventez aussi des choses. C'est-à-dire qu'il y a notamment cette image de la rencontre avec De Gaulle, quelque chose qui s'inscrit finalement dans un... espèce de transposition, finalement, de la vision que vous avez du père. Comment est-ce que vous l'envisagez, cette dimension-là?
L'histoire avec De Gaulle, c'est très étrange. Je ne crois pas du tout aux esprits et tout ça, mais c'est une histoire qui me taraudait depuis 10 ans, et je ne sais pas pourquoi, parce que mon père, je ne sais pas pourquoi. L'image, en 66, je crois que De Gaulle est venu à Marseille en 66, à 7h du matin, la déesse de De Gaulle s'arrêtant devant notre maison... De Gaulle sortant seul, montant jusque chez l'appartement de mes parents et le mien, donc. Mon père allant avec lui au salon pendant 5 minutes, et puis De Gaulle repartant dans sa voiture. Je ne sais pas du tout pourquoi cette image m'est venue à l'esprit, et je pense que franchement, la chose n'a pas eu lieu, mais c'était une obsession bien avant ça. Donc effectivement, je le raconte parce que... ça devient très bizarre, quoi, ce souvenir. Il y a cette idée du père qui est arrêté par la Gestapo et tout. Puis ce souvenir, ce faux souvenir, mais ce souvenir faux que je donne comme faux et que je savais faux. Je sais pas pourquoi. Et peu avant cette histoire, je m'apprêtais à l'écrire parce que je m'apprêtais à écrire une histoire avec ça, quoi. Et donc voilà, donc c'est ce faux souvenir que j'écris justement dans cette occurrence. Mais quand il m'arrive de mentir dans le livre, je le dis, donc je mens pas.
Mensonge avoué, c'est ça qu'on dit. Je relis un petit extrait du livre et puis je vous interrogerai dans la foulée si vous le voulez bien. Vous écrivez ceci: vaut-tu la peine d'un livre? Si je n'avais pas vu ces images, tu serais resté dans les égouts de ma mémoire, les égouts, les jardins, le paradis perdu de mon enfance. Souvent, il faut aligner les mots sans en choisir aucun, car chacun d'eux est le bon à condition de tous les citer. Je n'ai peut-être écrit tout au long de ma vie que le livre sans fin, de tout ce que nous ne nous sommes jamais dit, une parole continue, jamais interrompue par l'interlocuteur sourd et indifférent. Je n'étais que fiction, imaginaire, refus de puiser dans ma biographie, tant j'avais peur qu'on puisse apercevoir cette partie de moi-même dont j'avais honte comme d'un chancre. Je suis dur avec toi, mais tu as l'avantage d'être mort depuis 30 ans. Dans le néant, les outrages glissent comme un seau d'eau sur les plumes d'un canard. Et je ne sais pas si je dois me permettre de vous poser cette question, mais aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresse d'abord, et est-ce que vous arrivez à élucider les raisons pour lesquelles il a fallu attendre ce déclic qu'on évoque là pour écrire autour de cette question-là? Vous le dites, la question de la honte peut-être, mais... Il n'y a pas eu de pulsion d'écrivain à un moment donné où c'est entré par d'autres biais
Non, pour moi, c'est très clair. Hein. Donc, c'est parce qu'effectivement, je ne voyais pas du tout quoi en dire. Que j'aime pas la... Enfin, je déteste... Alors après, tout le monde n'a pas eu la même enfance, mais quand on a eu des parents, on va dire, assez, bien intentionnés, j'aurais pas imaginé faire un livre où j'aurais traîné les uns ou ma mère ou mon père dans la boue. C'est un peu beaucoup dire, mais j'aurais pas fait, a priori, un livre pour dire que mon père, bon, j'avais pas eu de père, etc., etc. Voilà, donc... et en effet, c'est ces images qui ont fait que je l'ai écrit. Autrement, je l'aurais jamais écrit. Non, ça me... Vous savez, j'ai pas... je croule plutôt sur l'abondance de choses que j'ai à écrire et que j'ai envie d'écrire et des idées que j'ai pour écrire, plutôt que dans la pénurie. Donc, j'ai pas sauté sur l'occasion pour écrire un livre, parce que j'étais en train d'écrire un livre sur Flaubert, je suis toujours en train de l'écrire, et j'ai d'autres projets, j'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de mon père pour aller écrire et j'ai jamais écrit. Alors, c'est peut-être un peu un côté bourgeois. On n'écrit pas sur sa famille. Remarquez, les bourgeois, ils écrivent sur la famille. Bon, enfin, je ne sais pas. Mais moi, je sais très bien pourquoi je n'ai pas écrit. Parce que d'abord, comme je vous dis, quand il est mort, il n'y avait rien à en dire. Et moi, le fils, j'avais très, très peu à en dire, effectivement. Donc, je n'en ai pas dit, j'en ai pas parlé. Il y a aussi le fait que je suis naturellement dans l'imaginaire. Donc, ça m'est très compliqué de m'en tenir à raconter le réel. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai eu écrit sur des sujets, on dit faits divers, mais enfin des sujets du réel, par exemple sur l'affaire Clostria, sur l'affaire Fritzl, qui avait fait 8 enfants à sa fille, qu'il avait enfermé 24 ans dans une cave. Ce qui m'était une discipline, c'est pour ça que je suis allé vers ce genre de sujet, c'est d'essayer de rester collé au réel. Et là aussi, il y avait besoin d'imaginer. Parce que imaginer 24 années dans une cave, ça c'était une épreuve. Pour moi, je savais que je pouvais devenir fou. Je savais qu'il fallait aller vite. Mais imaginer, c'était une épreuve, c'était une grande expérience de ça. Mais revenir au réel m'est toujours difficile parce que l'imaginaire m'emporte et je préfère l'imaginaire. Et surtout le réel, j'ai un gros problème, j'ai l'impression de copier. Ce qui est idiot parce qu'on ne copie pas le réel. Et là, sur Flaubert, par exemple, je suis très embarrassé par Flaubert lui-même. C'est-à-dire, je voudrais dire des choses que Flaubert, lui, n'a pas dites et qu'il aurait pu dire. Donc, j'ai un problème avec la réalité, comme si parler de la réalité, c'était d'une certaine façon un plagiat.
Vous écrivez d'ailleurs, là, à l'ouverture du livre de Papa, « La réalité justifie la fiction ».
Oui, parce que là, la réalité qu'on voit, si on n'a pas le moindre imaginaire, on n'a rien. Puisque, bon, on voit des images, on sait qu'on identifie la maison, on identifie la personne, il n'y a pas de trace de fichier, qu'est-ce qu'on dit ? D'ailleurs, les historiens, dès que ça sort de leur cadre, c'est un peu comme si vous avez été guéri par un acupuncteur et que vous voyez un rhumatologue, hein. Il ne va pas vous écouter longtemps. Et là, ben oui, et les historiens, tout d'un coup, ça ne les passionnait pas beaucoup. Et ils me disaient tous, oui, ça doit être une reconstitution. Bon, pourquoi pas ? Mais alors déjà, l'origine du film, on la trouve en 1947, dans un film de propagande du Parti communiste que vous pouvez voir. Ça s'appelle « Voilà Marseille ». Donc des images de briques et de broc parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Et là, le commentaire, c'est Marseille résistait pendant la guerre. Bon, sauf qu'ils montent un bourge, parce qu'à l'époque, vous voyez dans le film qu'ils n'étaient pas du tout habillés pareil, et qu'ils soi-disant résistaient. Alors que les bourgeois marseillais, ils ont plutôt collaboré, quoi. Plutôt collaboration économique plutôt que résistance. Bon, et puis le Parti communiste ayant dépensé une fortune pour montrer pendant 7 secondes un bourgeois qui a résisté pendant la guerre, c'est très peu probable. Et déjà, on est en 47, ça voudrait dire qu'on l'a tourné en 46, ce qui est complètement impossible. Deuxièmement, mon père, pour qui le Parti communiste était à peu près le diable, je le vois pas aller faire des constitutions. En plus, il n'était pas acteur, et à l'époque, les gens qui étaient bien comme il faut et qui avaient un boulot, ils rêvaient pas d'apparaître sur les écrans... avec les menottes au poignet sur des écrans qui faisaient 12 fois celui-là. Ça les intéressait pas du tout. C'était pas du tout, c'est pas comme aujourd'hui où les gens veulent faire du cinéma. Bon, donc c'est absurde. Donc voilà. Mais donc on a il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui prenne en compte ça, parce que par exemple, Jacques Blanquin me disait, mais c'est pas qu'il a pas, il était pas de bonne volonté, au contraire, mais il me disait, on filmait pas les arrestations. Et il m'a envoyé la seule arrestation qu'il connaissait en France qui avait été filmée, effectivement, qui n'avait rien à voir. C'était, j'allais dire, en plein air, ça avait rien à voir. C'était pas, et en effet, moi, j'en suis arrivé à la conclusion, et jusqu'à la preuve du contraire, je crois que c'est vrai, que c'est une réelle arrestation qui a été filmée, refilmée et surfilmée, et que c'était une image de propagande. Pourquoi ? Parce que quand on regarde bien l'image, on s'aperçoit que c'est une arrestation très correcte, qui aurait pu être une arrestation d'aujourd'hui. Il n'est même pas menotté dans le dos, il n'est pas frappé, on l'amène à la voiture, on le met dans la voiture. Donc voilà. Et moi, c'est tout ce que j'imagine, c'est une image de propagande, comme ils disaient les terroristes, etc. Ben la police veille que les terroristes sont... Comme il y a d'autres images de paroles de l'occupant, c'était le discours qui était tenu. Moi, c'est la seule explication que je vois, parce que le coup entraîné par ce tournage, c'est le coût entraîné pour une pub. C'est-à-dire, on met beaucoup d'argent pour... parce que là, ça fait 6 secondes et demie, je crois, 7 secondes. Pour 7 secondes, on met beaucoup d'argent dans un seul cas, c'est la publicité. Parce que là, dans un film normal, c'est beaucoup trop coûteux, quoi. On fait pas une séquence aussi rapide, c'est pas possible. Donc moi, c'est l'hypothèse que j'ai formée est celle, jusqu'à preuve du contraire, à laquelle je crois. Mais on n'a pas d'éléments pour la justifier, puisqu'on n'a aucune trace de la chose. Mais on peut penser aussi que le Parti communiste se servait de documents où il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc pas de droit d'auteur, évidemment, les films de propagande allemande, après la guerre, on pouvait se servir. Voilà, c'est l'hypothèse que je forme.
Ce qui est intéressant, c'est que, et vous le dites depuis le début de notre conversation, c'est que finalement le mystère demeure et que ce qui est à la base une forme d'enquête n'aboutit pas sur une élucidation de cette problématique-là, mais aboutit peut-être à une autre élucidation de vous-même par rapport à votre père. Est-ce que ça, c'est des choses que vous aviez anticipé, ou est-ce que vous êtes vraiment parti dans cette enquête, dans cette volonté d'élucider la sidération, enfin, de ce que vous avez vu là? Et que c'est finalement dans le rythme de l'écriture, dans l'avancée du livre, que peut-être une autre forme de résolution ou d'élucidation a eu lieu. Comment ça s'est produit ?
C'est tout à fait ça, oui. Non, moi je pensais pas du tout écrire ce que j'ai écrit. Non, moi je pensais vraiment faire une enquête. Je pensais qu'il y aurait vraiment un développement, quoi, que je trouverais certains éléments. Et là, vous trouvez devant un mur, puisque Gestapo, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de dossier, la police non plus, donc bon, vous êtes devant un mur, et j'aurais jamais imaginé le faire, mais en l'écrivant, je me surprenais beaucoup de l'écrire. Alors moi, je vais toujours jusqu'au bout des choses, donc je suis allé jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Moi, ça m'a un peu sidéré de le faire personnellement, parce que justement, j'en avais jamais parlé. J'aurais jamais cru que j'aurais osé en parler. Voilà.
Et en même temps, vous avez choisi aussi un titre pour ce livre. Alors, c'est effectivement l'évolution de Alfred à papa, pardon de reprononcer son nom. Mais
au contraire.
et finalement, le mot papa apparaît à la fin du livre. Et c'est finalement un terme qui est relativement puéril ou infantilisant, d'une certaine manière, si je peux me permettre ce regard-là porté. Et vous l'assumez comme titre du livre aussi. C'est-à-dire que c'est un véritable engagement quand même pour l'auteur que vous êtes, après peut-être une vingtaine de livres, d'assumer cette dimension-là, où le livre vous a mené d'une certaine manière. Ça a été une question pour vous ?
C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai horreur des gens qui disent mon papa, ma maman, parce que maintenant même les notaires, aux gens qui ont 80 ans, ils disent votre papa, quand votre papa est mort, je trouve ça grotesque, donc j'ai assumé la chose. Mais non, là c'est parce que ça justifie, parce que finalement j'arrive... au terme du livre, à l'aimer et à pouvoir l'appeler papa. Voilà, ce qui n'est pas dû m'arriver à partir de l'adolescence. Je pense que ça n'a pas dû m'arriver très souvent. Donc voilà, c'est le... Et j'ajoute que je suis à peu près le seul écrivain français qui a pu utiliser ce titre. Parce que moi, ça jurait un peu, on se demandait un peu ce qui allait se passer. Mais autrement, effectivement, ça a un côté extrêmement mièvre. Ça a un côté extrêmement mièvre, mais que j'assume parce que là, c'est vraiment le livre. Je pars de Alfred Geoffrey à mon père et à papa. Et c'est la quête du livre. C'est la, ce que j'arrive à gagner dans ce livre, c'est lui. Voilà. Ce que j'arrive à gagner, c'est mon père. Que je mets en avant et que j'aurais et que j'ai jamais mis en avant et que j'aurais pas imaginé mettre en avant. Et là, je le mets tellement en avant que j'en parle. Et que donc là, il est vraiment mis en avant. Alors, c'est une forme de résurrection dérisoire, évidemment, mais pourquoi ? Voilà. Donc, d'une certaine façon, pour moi, c'est assez étrange. Donc, papa, c'est assez étrange. Le fait de parler de lui, moi, si on m'avait dit qu'il y a 3 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi, que j'allais être là et que j'allais vous parler de lui, c'était invraisemblable pour moi. Il n'y avait pas du tout de... Moi, je disais toujours, j'écrirai mes mémoires quand je serai vieux et que j'aurai aucune imagination. Et les jours où j'aurai plus d'imagination, je serai même plus capable d'écrire. Donc, c'était pour dire jamais. Mmh. Donc, voilà.
Il y a une chose aussi, et puis après je vais peut-être donner la parole au lecteur, c'est que à la fin du livre, pas seulement à la fin du livre, mais notamment à la fin du livre, vous évoquez finalement vous-même, votre place d'auteur, d'écrivain. Alors vous vous nommez vous-même le spermatozoïde d'Alfred, donc c'est une manière de dire les choses. Vous dites d'ailleurs à un moment donné, ton spermatozoïde est rentré dans le Larousse illustré. Ce qui est quand même une manière un peu singulière, là encore assez âpre, de considérer votre parcours d'écrivain, et ce qui est une manière, là aussi, de redonner une forme d'honneur, non ? Enfin, peut-être vous pouvez...
Oui, parce que moi, ça m'a... Moi, je suis... Je suis très conformiste, en fait, et moi, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup aimé entrer dans le Larousse, parce que ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah ben quand même, ça veut dire qu'on me prend au sérieux, quoi. Ça m'a vraiment fait plaisir, parce qu'en plus, ils ne vous préviennent pas. Ils ne vous préviennent pas. Et alors, c'était sur Twitter, donc je vois un tweet, Bernard Lehu, 2 écrivains dans la rue. Je me suis dit, mais quel connard ils vont nous mettre encore. Et puis, je me vois. c'est vraiment. Mais j'étais furax. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'ils vont mettre encore ? Qui vont-ils mettre ? Et bon. Voilà. Donc, non, moi, j'assume les choses. Hein. Je dis pas... quand quelque chose m'atteint positivement, je le dis. Et ça m'a rassuré. Voilà. Moi, ce genre de choses me rassure parce que... En fait, c'est un manque d'orgueil. Hein. C'est un manque de confiance en soi, parce qu'il y en a qui ont une confiance en soi, qui disent... C'est une reconnaissance sociale, voilà. Et donc, c'est une forme de médiocrité chez moi, que je suis sensible à la reconnaissance sociale. Les autres aussi, mais moi, je le dis.
Bien, mais je vais me tourner vers vous. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. J'imagine que certains ont lu le livre. Ou si vous souhaitez réagir à ce que vous avez entendu pendant cette conversation, n'hésitez pas à prendre la parole. On vous fait passer un micro si c'est le cas.
J'ai trouvé intéressant ce que vous disiez à propos de votre rapport au réel, quand vous disiez copier le réel. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ou développer, notamment à propos de Clostria ?
À propos de Clostria, là c'est une expérience particulière, hein, parce que déjà le réel, on a des éléments du réel, mais en fait ça a été complètement, alors là pour le coup je reprends le mot, escamoté par la justice autrichienne. C'est-à-dire que la justice autrichienne, le but, c'était de condamner Fritzl à la prison à vie. Comme ça, de dire on l'a condamné, parce qu'au terme du droit autrichien, il risquait 8 ans de prison, en tout et pour tout. Donc on lui a mis sur le dos un meurtre avec préméditation, alors que ce n'était pas du tout le cas. Enfin bon, on s'est arrangé. Puis on lui a promis l'asile psychiatrique. D'ailleurs, j'étais au procès. Il a dit oui, j'espère me reconstruire à l'asile psychiatrique. Et puis il est allé en tôle. Et la plupart du procès s'est passé à huis clos. Donc on était dans le truc des journalistes, où il y avait tous les journalistes du monde entier. Et puis vous aviez les écrans de télé vides, les 3/4 du temps, parce que le procès n'était pas... Donc là, il fallait vraiment imaginer beaucoup de choses. Et puis surtout, il y avait cette idée d'être 24 années dans une cave. vous mettez 4 personnes, 1 mois dans une cave, déjà, il n'y a plus aucune valeur de la civilisation. Qu'est-ce qui peut se passer en 24 années dans ce souterrain, bon, quand on voit ce que c'était, etc. Voilà. Donc là, l'imaginaire était vraiment nécessaire. Alors, j'ai été l'ennemi du public, c'est pas, je ne me vante pas, mais le public de en Autriche à cette époque-là. C'était dès que le livre, avant même que le livre sorte en France, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à en parler. Parce que justement, j'en parlais. J'étais pas autrichien et par l'imaginaire, ce qui a beaucoup embêté les autorités, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que finalement, par l'imaginaire, je suis arrivé à certaines vérités qu'ils voulaient cacher. Et la peur, la terreur actuellement encore en Autriche, c'est que Joseph Fritzl ou surtout les enfants où la fille parle, parce que à l'époque, la parole d'Elisabeth Fritzl, elle valait 6 millions de livres sterling. C'est-à-dire qu'il y avait un éditeur anglais qui lui proposait 6 millions de livres sterling. Je n'ai pas le cours de la livre, mais ça fait largement 8 millions d'euros. On les a perdus en Autriche quelque part. Et à mon avis, on les entretient grassement pour qu'ils ne parlent pas. Il y a toujours cette terreur qu'ils parlent. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce vase clos, dans un endroit de 40, 50 mètres carrés, avec des murs, avec des plafonds qui, à certains endroits, font pas 1,80 m, avec un homme qui couche avec sa fille, avec des films porno à tue-tête. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a rien dit. Par exemple, ils sont sortis, les enfants marchaient à quatre pattes. Parce que quand on met des enfants dans un lieu clos, même si ça marchait, ils marchent à quatre pattes. Ils avaient un vocabulaire entre eux qui était une langue particulière. Ça, on ne nous l'a pas dit. Beaucoup et je ne parle pas du plus épouvantable, mais le plus épouvantable, évidemment, a dû avoir lieu. Parce que même, il ne pouvait pas s'acclimater au réel. On a été obligé à l'hôpital de reconstituer la cave. Ils n'ont pas pu tout de suite s'adapter à la réalité. Il y avait aussi l'histoire de la lumière. On les a fait sortir la nuit. Parce qu'autrement, ils auraient été aveuglés. Et quand le gosse de 5 ans, il y avait toutes les voitures de police partout, etc. Il connaissait, puisqu'il avait vu à la télé. Mais il a dit, c'est bien que je sorte, comme ça je vais pouvoir monter dans une voiture. Voilà, j'avais trouvé ça assez bouleversant. C'est peut-être le seul qui pourra peut-être s'en sortir, mais je ne suis pas sûr du tout.
Pardon, je me permets. Oui, allez-y, madame, je vous en prie, allez-y.
Oui, en revenant à votre père, donc cette histoire, il m'est ému. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie posthume. Il est mort. Et personne n'a plus parlé de lui.
Oui.
Donc il n'a pas eu la vie posthume que tout membre d'une famille a au sein de cette famille.
Tout à fait.
Et pendant ces années, donc il n'a pas eu le spectre du père chez vous. Il ne vivait pas avec vous, le spectre du père.
S'il devait exister à l'intérieur de moi, ce n'est pas parce qu'il était... Mais au niveau social, effectivement... personne n'en a parlé. Il y avait même une grande photo que j'avais prise de lui à l'époque où on développait les photos, 18-24, qui était à un moment chez ma mère et qui a disparu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de photo, peut-être une petite photo quelque part, il va y avoir une petite photo quelque part. Mais ouais, il y avait une sorte d'escamotage, c'était presque stalinien, comme quand on arrête quelqu'un, on le découpe dans toutes les photos, il n'est plus nulle part. Oui, c'est assez frappant, cet escamotage. C'est assez frappant parce que ma mère n'était pas en dispute avec lui. Il n'y a jamais eu ce genre de truc. Donc là, il disparaît à peu près comme si c'était un assassin d'enfant qui soit mort en prison, par exemple. Donc, il est mort, on coupe, ça arrange tout le monde, on n'en parle plus. Là, il y aurait eu une cohérence. Là, je ne la connais pas.
Donc, c'est un crime sans méchanceté.
C'est une sorte de crime sur sa mémoire, peut-être, oui, parce que personne n'en a... on a parlé. La seule chose, c'est que moi, je sais pourquoi. Voilà. Mais moi, c'était pas un tabou. De fait, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas grand chose à en dire. Mais moi, c'était pas un tabou. Mais puisque personne n'en parlait. Moi, la mère de mes enfants ne l'a pas connue, donc elle n'avait aucune raison de m'en parler. Mes enfants non plus. Moi, quand je suis né, mes grands-pères étaient morts 20 ou 30 ans avant. Mais il me semble que j'en avais quand même parlé, parce qu'on n'en parlait pas souvent, parce que c'était encore beaucoup plus avant. Parce que moi, quand mon fils est né, il est né 2 ans après la mort de mon père, donc c'était assez récent. Moi, quand je suis né, le père de mon père est mort en 1920. Donc moi je suis né en 55, donc ça faisait 35 ans. Mon père l'avait pas connu, hein. À 5 ans il s'en souvenait pas, donc c'était un peu logique. Et malgré tout j'en ai quand même entendu parler. Et là non, là cet homme, sitôt mort, sitôt oublié, comme s'il mourait une deuxième fois, effectivement, vous avez raison. Comme si sa mémoire avait été assassinée. À un point, oui, comme si on en avait honte comme d'un criminel. Voilà, exactement. Alors que... Il n'était pas criminel, et puis d'autant plus que, comme il était mort, on pouvait le fantasmer. Ma mère aurait pu le fantasmer en disant « oui, ton grand-père », etc. Puisqu'il ne le connaissait pas, elle pouvait parler de l'homme qu'elle a connu, elle, donc qui n'était pas dans l'état dans lequel je l'ai connu. Quand elle l'a connu, il n'était pas sourd complètement, il n'était pas sous aldol. Elle aurait pu dire, en faire un personnage... un personnage qu'il a sûrement été quand il était jeune, et lui en parler. Et ça n'a pas été le cas.
Bon, merci beaucoup.
Merci madame. Est-ce que, peut-être encore une petite chose dans la foulée de cela, parce qu'il y a une dimension qui est quand même à l'œuvre dans la transmission, ou dans l'héritage, c'est plus du côté de la peur ou de l'angoisse, et notamment ce que vous décrivez par rapport à la crainte de la surdité. C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi qu'il y a quelque chose de descendant, mais qui se situe à l'endroit de la peur ou de la crainte de reproduire quelque chose d'équivalent. C'est à cet endroit-là, finalement, qu'il y a une forme de filiation très forte.
Oui, c'est-à-dire que, vous savez, les enfants ont toujours l'impression qu'ils sont responsables de ce qui arrive à leurs parents. Donc moi, cette surdité, pour moi, j'en étais d'une certaine façon coupable. Et donc, il y avait en moi cette peur de devenir sourd, au sens où j'aurais, en quelque sorte, accompli mon devoir en devenant sourd comme lui. Voilà, alors c'est un mouvement intérieur difficile qui n'a pas une logique rigoureuse, mais ça a été le cas et ça a duré assez longtemps, ce phénomène a duré assez longtemps. Et ça nous, les jeux n'obéissent pas toujours à une logique rigoureuse, mais par exemple, les couples qui se séparent, les enfants pensent toujours que c'est leur faute. Toujours. Et là, c'est un peu le même phénomène.
Peut-être une dernière question. Les lecteurs vont pouvoir vous retrouver à la librairie pour un petit temps de dédicace. Vous disiez tout à l'heure que ce livre était arrivé au milieu d'un travail sur Flaubert et que vous aviez énormément d'autres projets, ce que j'imagine aisément. Est-ce que vous avez quand même l'impression que ce livre-là va constituer un moment particulier dans votre œuvre ? Non pas que vous allez vous mettre à écrire de l'autofiction tous les 4 matins, cher Régis, enfin je l'imagine difficilement.
Et pour moi, c'est pas de l'autofiction.
Non, mais enfin, en tout cas, de reprendre le matériau autobiographique.
C'est particulier.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va se produire après ce livre, dans votre parcours littéraire, dans votre écriture, dans votre rapport au motif qui vous habite, ou est-ce que ça aura été une effraction, un moment lié à cette stupéfaction du film, du documentaire, et donc du mystère qui en émanait ?
Oh ben, je crois que surtout, ça a été un événement dans ma vie. Hein.
Ouais.
J'en suis sûr. Je suis sûr que ça a été un événement dans ma vie. Ouais. Après, littérairement, j'en sais rien, mais donc sûrement. Mais alors, dans ma vie, oui. Alors là, que ça a été. Que ce livre, l'écriture de ce livre, ait été un bouleversement dans ma vie et que la vue de mon père dans cette espèce de clip de propagande était un événement dans ma vie, je confirme, comme on dit. Hein. Ça a été un bouleversement dans ma vie. Un bouleversement. Alors sur le plan littéraire, je ne sais pas, mais forcément, puisque ça, mais c'est sur moi, oui, ça a été un bouleversement dans ma vie. À titre plus réduit, mais il y a eu une expérience de vie aussi. C'était par exemple pour Clostria, parce que j'ai senti que cette espèce de folie et d'horreur, il fallait la traverser vite, de peur de devenir oui, de tomber dedans, quoi. Mais c'était à minima puisque ça me concernait pas. Et puis une fois que l'orage est passé, il est passé. Tandis que là, oui, effectivement, oui, là, ça a été un bouleversement dans ma vie.
Ben, je vous remercie en tout cas beaucoup de votre écoute et de la générosité de votre parole, cher Régis. C'est toujours un plaisir. On vous retrouve donc à la librairie juste à côté pour un petit temps de dédicace et d'échange. Y a papa, on n'a pas parlé de ces micro-fictions 2018 qui sont toujours aussi savoureuses.
Merci.
Merci Régis. Merci à vous de votre écoute. Merci.
Et je vous rappelle juste que va commencer maintenant dans le Forum -1 une rencontre avec Olivia Rosenthal. Merci.